France Culture.
Le sommet mondial pour l'intelligence artificielle a démarré hier à Paris, alors pas totalement puisqu'il s'agit depuis hier de réunir essentiellement la communauté scientifique dans de vastes colloques à Polytechnique. L'ouverture officielle et surtout plus diplomatique se fera lundi prochain, car c'est tout le but de ce sommet. Chefs d'État mais aussi patrons de grands groupes comme de start-up auront l'occasion de discuter de la façon dont, entre autres, l'IA peut être une source de dynamisme économique. Or, la concurrence fait rage, des programmes de conversation que l'on croit quasiment en situation de monopole ne le sont en fait pas tellement. C'est ce qu'a prouvé le succès de DeepSeek, la start-up chinoise, qui fin janvier a provoqué une véritable panique boursière aux États-Unis. Et si les marchés sont si sensibles, c'est parce qu'avec l'IA, il est surtout question de fonds, de sommes parfois astronomiques, débloquées pour financer une technologie en laquelle on croit ou pas. Financer l'IA, est-ce croire en ses applications réelles? Et surtout, qui met la main à la poche et au nom de quoi? Entre soupçons de bulles et crainte de ne pas être au rendez-vous de la compétitivité technologique, toute la question est de savoir s'il faut ou non miser sur l'IA. Et ce sera notre question jusqu'à 15h dans cette table ronde programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Jean-Guy Lamège. Et trois invités sont autour de cette fameuse table ronde du jour. Anne Perrault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste correspondante du Conseil d'analyse économique et ancienne vice-présidente de l'Autorité de la concurrence. Thierry Foucault, vous êtes quant à vous professeur de finance à HEC Paris et chercheur associé au Centre for Economic Policy. Bonjour à vous.
Bonjour.
Benjamin Pajot, enfin, vous êtes chercheur associé au Centre géopolitique des technologies de l'IFRI. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors, pour comprendre ce qui se joue depuis hier et qui commencera, on l'a dit, véritablement lundi prochain, à savoir ce fameux sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, je vous propose d'écouter Anne Bouvreau, ingénieure et chef d'entreprise et surtout envoyée spéciale du président de la République pour ce sommet.
Quand on voit les sommes d'investissement colossales que les États-Unis mettent sur la table, puis on a cette idée que ce sont les grands géants de la tech, et c'est vrai qu'ils sont en train de faire la course en tête. Mais on voit aussi, avec cette annonce récente de cette équipe de recherche chinoise, là, DeepSeek, que, en fait, avec de la science ouverte, parce qu'il s'agit d'open source, avec des talents et avec des montants beaucoup plus raisonnables, on arrive à faire des choses qui sont très intéressantes. Alors, comment est-ce qu'ils y arrivent? Ils ont du talent, bien sûr, et ça, on en a aussi beaucoup en France et en Europe, mais aussi c'est qu'ils réutilisent ce qu'on appelle des modèles open source. Donc quand on fait de la science partagée et qu'on peut réutiliser les modèles qui ont été faits par d'autres et continuer à innover dessus, eh bien c'est vraiment vertueux et ça permet de développer des choses pour moins cher. On a Mistral et on a le chat de Mistral et on a tout un tas d'autres start-up et d'ailleurs même licornes. Donc on a un pack en fait de licornes. En France, on parle beaucoup de Mistral et c'est très bien, on en est très fiers. Mais on a aussi, par exemple, Hugging Face, on a Pigment. Pigment, ils font un logiciel de planification. En gros, ils remplacent Excel par des choses plus modernes, dopées à l'intelligence artificielle. Ceci dit, c'est vrai qu'on a un certain nombre de régulations différentes qui viennent les unes après les autres. On a une autre qui s'appelle l'AI Act en Europe. Il faut faire attention à comment ces réglementations vivent les unes par rapport aux autres et à simplifier leur application. Il faut vraiment qu'on puisse avoir un marché européen plutôt que des implémentations un peu différentes pays par pays. On est très content du nombre de chefs d'entreprise qui ont confirmé. On a Sundar Pichai de Google, on a Sam Altman d'OpenAI, on a le chairman d'Alibaba. C'est vraiment rare d'avoir à cette échelle-là une conversation multipartite internationale sur l'IA. Parce qu'il y a des chefs d'État, il y a des chefs d'entreprise, des CEO de start-up, des très grands chercheurs, des représentants de la société civile. Et cet ensemble de gens qui parlent de cette révolution en cours, eh ben c'est intéressant pour tout le monde.
Benjamin Pajot, qu'est-ce qui se joue réellement lors de ce sommet? Comment comprendre qu'entreprise et nation aussi, quelque part, aient besoin de dialoguer dans cette conversation multipartite, comme le disait Anne Bouvreau au micro de France Info, c'était hier. Quel est le but en réalité de ce sommet?
Je vois trois enjeux principaux. Le premier, c'est celui d'un positionnement diplomatique pour la France, remettre la France au centre du jeu, dans le ballet diplomatique sur l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet qui, ça ne vous a pas échappé, concerne l'ensemble de la planète. Il y avait déjà eu deux sommets précédemment en Grande-Bretagne et en Corée du Sud, les AI Safety Summit, sommet autour de la sécurité sur l'intelligence artificielle. Et donc la France s'inscrit dans cette logique diplomatique. Et l'enjeu pour elle, évidemment, c'est, au travers de toute cette semaine, eh bien, d'arriver à imposer une forme de plus grande inclusivité sur les questions d'intelligence artificielle, parce que ces deux premiers sommets étaient essentiellement tournés sur les questions de sécurité, d'enjeux, de risques à long terme, voilà. Et puis d'une forme de peut-être aussi de risques relativement fantasmés jusqu'ici. Et donc l'enjeu, c'est de recentrer la conversation aujourd'hui sur les usages, sur l'IA d'intérêt général, et pour la France, évidemment, un enjeu d'attractivité majeur. On l'a entendu dans l'extrait qui vient d'être passé, des chefs d'entreprise de toute la planète, des chefs d'État également qui sont conviés, mais aussi des chercheurs, et ça c'est très important. Il y a plusieurs prix Nobel qui sont présents au cours de la semaine, des chercheurs d'une très grande qualité. Et donc ça, j'en viens au deuxième enjeu, après l'enjeu diplomatique, c'est l'enjeu de partage des connaissances. On va avoir des discussions entre ces chercheurs qui vont permettre de faire avancer eh bien, tout un tas de sujets, en tout cas on peut l'espérer. Et puis dernier enjeu, là c'est un enjeu plutôt national, celui de l'attractivité économique, puisqu'il y a des journées qui seront consacrées à des annonces d'investissement de ce point de vue-là. C'est déjà commencé hier avec le partenariat avec les Émiratis.
Tout à fait.
Et évidemment une journée business, même deux journées business qui vont permettre... on espère des retombées positives pour l'économie française et au-delà l'économie européenne.
Oui, je crois que la première journée business aura lieu mardi. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle journée business. C'est comme ça qu'elle est inscrite au programme. Et en tout cas, on le comprend grâce à vous, Benjamin Pageot. L'idée, c'est de montrer que les choses se concrétisent et qu'on prend de fait le tournant aussi de cette concrétisation et donc foncièrement de ce caractère très économique aussi de ce que pourrait, de ce que peut apporter l'IA. Anne Perrot, ce qu'on entend aussi dans ce que nous dit Anne Bouvier dans l'extrait qu'on vient de passer, c'est l'idée aussi que chacun aurait un peu son modèle. Les États-Unis investissent de façon colossale. Il y a eu un certain nombre d'annonces ces derniers jours sur lesquelles on va revenir. La Chine, elle se spécialise, elle a largement insisté dessus et nous aussi sur l'open source qui est très importante. Et l'Union européenne, elle, a Mistral entre autres et ses licornes. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut structurer le paysage économique autour de l'IA ?
Oui, alors c'est une bonne question parce que je dirais que au-delà des enjeux pour l'économie française, comme vous l'avez souligné, il y a vraiment des enjeux européens. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le dialogue nous passe un tout petit peu au-dessus de la tête, malgré tout, malgré la présence d'entreprises tout à fait valeureuses. On a cité Mistral et beaucoup d'autres que Anne Bouvreau a mentionné tout à l'heure. Mais je dirais que l'Europe doit trouver sa voie, notamment dans les circonstances géopolitiques que tout le monde entrevoit, et aussi parce que en ce moment, à propos du numérique, mais de l'IA en particulier, il y a vraiment tout un débat autour de est-ce qu'il faut beaucoup réguler ou est-ce qu'il faut pas trop réguler, sachant que si on régule trop, on risque de brider l'innovation, l'investissement, etc. Et si on régule pas assez, eh bien, il risque de se produire avec l'IA et peut-être de façon démultipliée, ce qui s'est déjà passé avec les entreprises du numérique, puisqu'on voit que on a assisté malgré tout à la constitution d'un univers qui n'est pas très sain sur le plan concurrentiel. On a vraiment d'énormes plateformes, que ce soit Google, Amazon ou autres. Alors, il y a beaucoup de raisons technologiques qui expliquent la grande taille des plateformes dans l'économie numérique et qui sont tout à fait justifiées. Les effets de réseau, on y reviendra peut-être, les économies d'échelle. Donc tous ces facteurs-là expliquent et justifient d'une certaine manière la rationalité d'avoir des acteurs de très grande taille. Mais voilà maintenant qu'on se pose la question, alors on se la pose moins, je pense, aux États-Unis depuis l'administration Trump, mais la précédente patronne de l'antitrust aux États-Unis a mis sur la table la question du démantèlement des grandes plateformes. Alors, la question de l'Europe, c'est que l'Europe a toujours tendance à vouloir trop réguler, et on voit bien, et ça aussi Anne Bouvreau l'a mentionné tout à l'heure, qu'on a déjà un empilement de textes réglementaires qui touchent au secteur du numérique. On a le Data Act, on a le DMA, on a le DSA, on pourra peut-être revenir sur ce que signifient ces sigles tout à l'heure, mais en gros, c'est des régulations qui touchent soit les contenus des plateformes, soit les modes de concurrence et de régulation. On va avoir maintenant l'IA Act. Ça fait déjà beaucoup de textes. Et je pense que pour l'Europe, il y a quand même une question à se poser. C'est de créer des conditions régulatoires mais aussi concurrentielle, qui soit favorable au développement d'une intelligence artificielle européenne. Alors, ça, c'est un aspect des choses. Il y a évidemment la question de l'aspect du financement du développement de l'IA, et ça, ça renvoie un peu aux préconisations aussi du rapport Draghi, qui disait « En Europe, on souffre de l'absence d'un marché des capitaux réellement intégré », mais peut-être que Thierry sera plus à même que moi de développer ce point. Effectivement, on voit bien que les montants d'investissement sont absolument colossaux et que, bon, on est content déjà de pouvoir investir quelques millions, voire dizaines ou centaines de millions dans la création de centres de calcul, par exemple, comme Jean Zay ou l'extension de ce centre, c'est super. Mais on voit bien que c'est absolument sans commune mesure avec ce qui a été développé aux États-Unis. Alors, quant à la Chine, j'avoue que je ne suis pas suffisamment spécialiste technique de ces questions pour savoir si réellement la Chine a développé DeepSeek autour d'un modèle réellement open source et avec peu de capitaux. On verra bien ce que ce modèle va donner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Europe doit trouver un chemin à la fois d'unification de ses espaces économiques et en même temps qui lui soit propre, mais qui lui permette d'exister, c'est-à-dire pas brider l'innovation trop tôt. Et c'est un peu le problème de la concurrence, et ça j'en parle vraiment en ayant été surtout les deux pieds dedans, c'est que si on intervient trop tôt, alors on bride les modèles économiques qui seraient prêts à se développer. Et si on intervient trop tard, le coup est parti et on a affaire à d'énormes plateformes qu'on ne sait absolument pas comment traiter.
Tout est donc une question d'équilibre, c'est ce qu'on comprend, et aussi de temporalité, de savoir quand poser, on va dire, certaines limites, et notamment en termes de régulation. On va revenir sur ces questions qui sont extrêmement importantes, et notamment dans le cadre de cette IA Act que vous avez mentionné, Anne Perrot, qui devrait entrer en vigueur en 2026, mais dont les contours sont encore un petit peu flous, même si ça devrait être, on va dire, sur la dernière phase de la formalisation. Thierry Foucault, on le comprend, il y a aussi un énorme enjeu de financement. On a beaucoup parlé des États ou de l'Union européenne, on a parlé d'acteurs très institutionnels, finalement, mais une annonce a déjà été faite. On apprenait que les Émirats arabes unis vont construire en France un data center géant, soit un investissement de 30 à 50 milliards d'euros dans le cadre d'un accord de partenariat signé entre les deux pays. Ça nous dit quelque chose d'une grande composante de l'IA, encore une fois, celle du financement. Ce sommet, est-ce qu'il peut être aussi vu comme une sorte d'occasion de repérer où se situent les fonds disponibles et comment les mobiliser? Est-ce que c'est ça aussi le nerf de la guerre aujourd'hui?
Certainement, effectivement, c'est une révolution industrielle qui est en train de se passer. Donc, comme toute révolution industrielle, il faut financer la technologie. Et donc, les sources de financement, elles sont diverses. Aux États-Unis, parmi les premiers financeurs, il y a les acteurs du numérique, en fait. C'est-à-dire que OpenAI, c'est Microsoft qui est derrière OpenAI. Il y a également des fonds souverains. Il y a Abu Dhabi, par exemple, dans le cas d'OpenAI. Dans le cas de, il y a des concurrents d'OpenAI qui sont, par exemple, Anthropic. Anthropic, c'est Amazon et Google. Donc, les acteurs du numérique, en fait, financent les développeurs de modèles d'intelligence artificielle parce que c'est dans leur intérêt. C'est un morceau de la chaîne de valeur, en fait, pour eux. La chaîne de valeur, elle part des producteurs de puces électroniques, etc., des fournisseurs de puissance de calcul. Donc là aussi, vous avez Amazon, vous avez Google, etc. Ensuite, vous avez les développeurs de modèles d'intelligence artificielle. Donc là, il y a effectivement OpenAI et Anthropic. Donc en fait, les acteurs du numérique sont des financeurs naturels et ils le font parce que c'est dans leur intérêt. Ensuite, vous avez des capital risqueurs, et donc là, ça rejoint effectivement le point qui était fait par Anne Perrot. Les États-Unis ont depuis très longtemps un écosystème de financement pour des entreprises innovantes et ce qu'on appelle des start-up, des jeunes pousses, basées sur le capital risque, qui sont des fonds qui investissent dans des sociétés dont on ne connaît pas très bien les perspectives et qui sont prêts à prendre des risques importants. Donc c'est également des sources de financement pour les entreprises dont on parle actuellement, et c'est effectivement probablement un des enjeux en Europe de l'union des marchés de capitaux, c'est de développer un écosystème pour le financement des entreprises innovantes qui soit beaucoup plus à même de porter le risque financier associé à ces entreprises. Et puis, vous avez des fonds souverains. Par exemple, vous avez Abu Dhabi, vous avez les Émirats Arabes Unis, vous avez, par exemple, le fonds souverain norvégien, etc., qui ont des capacités de financement énormes et qui sont également des investisseurs naturels, effectivement.
Anne Béraud, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Thierry à l'instant pour dire que, effectivement, la source principale actuellement de financement des jeunes pousses qui sont déjà plus si jeunes et plus si pousses que ça de l'intelligence artificielle, ce sont les grandes plateformes. Et c'est ça le risque, en fait. C'est que ces grandes plateformes qui ont d'abord des volumes de données, je pense qu'on va parler un peu des ingrédients qui permettent à l'intelligence artificielle de se développer. Parmi ces ingrédients, il y a le fait de pouvoir disposer d'un ensemble de données monstrueux. Et c'est évidemment le cas des plateformes par rapport à des nouveaux entrants. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que avec d'autres facteurs, on est dans un domaine où il y a énormément de barrières à l'entrée. Il y a des barrières à l'entrée financières, il y a des barrières à l'entrée de nature de données, il y a la puissance de marché qu'ont acquise Google, Meta et d'autres, grâce principalement à la publicité numérique, hein, mais qui se sont progressivement étendues sur des tas de domaines d'intervention, qui sont maintenant présents dans l'intelligence artificielle et qui peuvent contribuer à créer des barrières à l'entrée dans lesquelles des nouveaux modèles innovants et qui auraient beaucoup de mérite et que tout le monde plébisciterait s'ils arrivaient à entrer sur le marché. Ces nouveaux modèles innovants sont dans un risque de ne pas pouvoir toucher leur public, disons.
Et on voit effectivement le risque d'avoir un marché très verrouillé. Benjamin Pageau, sur ce risque énorme de monopole ou en tout cas d'oligopole de la part de ces grandes plateformes qui ont déjà une assise financière énorme, elles risquent de se répercuter quasiment, de faire un copier-coller aussi dans l'IA.
Oui, c'est déjà le cas. On voit que c'est eux qui disposent des moyens financiers pour aligner les montants dont ces entreprises avaient jusqu'ici besoin pour se développer, avec une vraie question qui se pose derrière tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent ? Là, on est quand même en train de brûler des dizaines et des dizaines de milliards de dollars pour des technologies dont on peine encore à voir les aboutissements.
D'où la question, Benjamin Pageau, qu'on va se poser, de savoir si tout cela n'est pas au fond qu'une vaste bulle. C'est une question qui est énormément remontée vis-à-vis de l'IA.
Ça fait effectivement partie des questions. Et le fait qu'une société chinoise ait publié un modèle concurrent qui, aujourd'hui, soit en capacité, effectivement, d'aller challenger ces acteurs-là sur leur propre terrain, pose question. Mais pour autant, moi, il y a des analystes qui commencent à dire que voilà, c'est la fin du règne des big tech dans le domaine de l'IA parce que précisément ces modèles ouverts vont permettre à tout un tas d'acteurs de rentrer dans la compétition et donc de faire fi de la puissance que pouvaient leur apporter ces grands acteurs américains. Je suis pas certain que ce soit le point d'arrivée. Si vous libérez une technologie, que vous la commercialisez, que vous rendez son développement plus aisé, à la fin, ça ne change pas le fond du débat, qui est que ce sont ces acteurs qui disposent des infrastructures matérielles pour les faire tourner. Et voilà, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas prêt de renverser la vapeur.
Et vous abordez là, Benjamin Pageau, un point qui est très important et qui n'est pas forcément très intuitif quand on parle de l'IA, mais l'IA, c'est aussi un aspect très matériel des choses. Il y a des infrastructures, il y a une question du foncier aussi qui est très importante, il y a une question évidemment de la pollution émise par les data centers qui sont ainsi créés. Tout cela, on va en parler. J'ai juste une petite question, Benjamin Pageau, quand même pour vous, parce que ça peut paraître étonnant. Je mentionnais cette notion de partenariat entre les Émirats arabes unis et la France. Il faut aussi dire que ce sommet, il est certes organisé par la France et certes il se tient à Paris, mais il est aussi co-organisé par l'Inde. Finalement, on a un peu l'impression, alors même qu'on a beaucoup dit que l'IA était une question d'enjeu de souveraineté, de concurrence internationale, etc., ça donne un peu l'impression d'un climat de coopération, de coordination entre très très grandes nations. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que surtout ces coopérations-là, elles sont pensées pour justement faire face à ce que disait Anne Perrault, à la toute puissance des GAFAM, entre autres?
En tout cas, c'est le message que va tenter de faire passer le sommet. Je pense qu'aujourd'hui, on est effectivement un croisement des chemins. C'est-à-dire que pour des puissances comme la France, comme l'Inde, comme les Émirats Arabes Unis, comme l'Arabie Saoudite et bien d'autres, il n'y a pas forcément d'intérêt à se retrouver coincé entre la Chine et les États-Unis sur ce sujet comme sur tous les autres. Parce qu'on voit effectivement, dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus tendu, on va vers une confrontation plus ou moins directe entre ces deux puissances. Et notre intérêt, il n'est pas de se retrouver embarqué dans cette confrontation, en tout cas sans l'avoir choisi, sans savoir pourquoi on s'y engagerait. Et donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça se traduit effectivement par une volonté de chercher des partenaires extérieurs à nos alliances peut-être un peu plus traditionnelles, encore que sur avec l'Inde, on a déjà beaucoup de projets qui sont menés, et il y a une véritable coopération numérique entre la France et l'Inde qui est très active. Et donc, cette recherche de partenaires, elle est aussi pour montrer au reste du monde qu'en réalité, l'IA, c'est d'abord des technologies qui nous concernent toutes et tous. Et qu'il faut absolument sortir de cette espèce d'affrontement sino-américain qui nous imposerait une certaine lecture de ces technologies et de leur développement.
D'où cette idée d'IA d'intérêt général que vous avez évoquée en début d'émission, Benjamin Pageot. Alors, on a beaucoup parlé du sommet donc, qui se tient en ce moment à Paris, mais tout ne se joue pas uniquement lors de ce sommet. D'autres accords se nouent ailleurs et par ailleurs en grande pompe. C'est ce qu'a fait Kevin Vail, responsable de la stratégie de OpenAI lors du sommet de Davos le 22 janvier dernier.
Sam Altman, le PDG d'OpenAI, Larry Ellison d'Oracle, Masa Son de SoftBank et Trump ont annoncé leur intention de créer Stargate et d'investir 500 milliards pour l'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis, avec déjà 100 milliards engagés pour les 4 prochaines années. En fait, c'est parce que nous voyons que plus nous avons de calculateurs, plus nos modèles deviennent bons. Et de meilleurs modèles nous permettent de construire de meilleurs produits pour résoudre plus de problèmes pour les gens dans le monde. Et nous y allons à fond. Donc nous voulons investir et nous assurer que nous ayons assez d'infrastructures, assez de calculateurs pour faire ce que nous pouvons avec ces modèles une fois qu'ils seront prêts. Donc c'est pour les data centers qui hébergent des microprocesseurs qui vont tester les modèles et conduire des analyses pour soutenir nos produits.
Le 21 janvier dernier, donc la veille de cette déclaration très officielle de Kevin Vail, le 21 janvier dernier, donc les États-Unis ont annoncé la mise en place du projet Stargate, soit un investissement immédiat de 100 milliards de dollars pour bâtir les centres de données géants de la future génération d'IA. On le disait, l'IA, c'est aussi des choses très concrètes en termes d'infrastructure, un montant qui s'élèvera à 500 milliards de dollars d'ici 2029. Or là encore, il s'agit d'une forme de partenariat, puisque le géant japonais de l'investissement SoftBank Group et l'entreprise américaine OpenAI sont également de la partie. Thierry Foucault, pourquoi les États-Unis ont-ils besoin de l'appui de SoftBank? Est-ce qu'il faut comprendre est-ce qu'ils n'ont pas la puissance financière pour appuyer leurs ambitions en termes d'intelligence artificielle et réaliser un tel investissement ou tout simplement il faut voir cette initiative comme une forme de partage des risques? L'État américain soutient, envoie le message, mais n'a pas non plus envie de trop miser dessus.
Effectivement, c'est les États-Unis qui vont bénéficier de ces investissements, mais je suis pas sûr que ce soit les États-Unis en fait qui mobilisent l'investissement en l'occurrence. C'est-à-dire que Trump a saisi de manière assez opportuniste, et OpenAI également, en fait, un projet qui était déjà dans les tiroirs entre OpenAI et SoftBank. Donc SoftBank, c'est un des investisseurs dont on parlait précédemment, c'est-à-dire SoftBank est une banque japonaise, effectivement, qui investit dans la technologie en général. De manière intéressante, SoftBank possède en fait à une filiale anglaise, enfin finance une filiale anglaise, une société anglaise qui s'appelle Arm. Arm étant spécialisée dans la production de puces électroniques. C'est un compétiteur de Nvidia. Donc c'est un aspect intéressant, ça rejoint le point que je faisais précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, les opérateurs sur la chaîne de valeur, les opérateurs du numérique ou les producteurs ou les gens qui financent les producteurs de puces électroniques, ont un intérêt direct aussi au développement des modèles d'intelligence artificielle, donc ces modèles qui sont développés par OpenAI ou Anthropic, par exemple, ou par Mistral en France. Donc, ils cherchent à intervenir sur tous les points de la chaîne de valeur. Et donc, SoftBank, de ce point de vue, fait quelque chose qui n'est pas très, très différent de ce que fait Google lorsqu'elle finance Anthropic, par exemple.
Oui, finalement, c'est se positionner à chaque étape pour en avoir soit le contrôle, soit en tout cas une forme de droit de regard, et en tout cas potentiellement réaliser ces fameuses économies d'échelle dont on parlait. Anne Perrault, vous souhaitiez justement réagir sur
ce point-là. Oui, ce qu'il faut voir, et ce qui est peut-être un peu de nature à rassurer d'une certaine manière dans cette histoire-là, c'est que mondialement, tout le monde se tient un peu par la barbichette. Hein. C'est-à-dire que pour développer l'intelligence artificielle, on a besoin de Nvidia qui conçoit, sans les produire, ces fameux GPU, là, les processeurs graphiques, lesquels sont fabriqués principalement par TSMC qui se trouve à Taïwan, à l'aide de machines dont le monopole ou le quasi-monopole mondial se trouve dans les mains d'une société qui s'appelle ASML mais qui est aux Pays-Bas. Et donc on voit bien que toute cette industrie de l'intelligence artificielle qui, comme vous le disiez tout à l'heure, a besoin de supports matériels. À un moment, il faut des calculateurs, des puces, des choses qui font des calculs, qui entraînent les modèles, etc. Donc, c'est pas seulement quelque chose d'abstrait, l'intelligence artificielle. Ça repose aussi sur des capacités de calcul qui sont très concrètes. Eh bien, dans cette grande chaîne de valeur, d'une certaine manière, tout le monde est dépendant de tout le monde. Alors, ce qu'affiche Trump, c'est de dire, bah moi, à terme, je veux n'avoir besoin de personne et être capable de produire sur mon sol ce qui est aujourd'hui produit à Taïwan ou ailleurs. Mais on n'y est pas. Peut-être qu'on y sera un jour. Par ailleurs, les Américains ont beaucoup sous-estimé la capacité de la Chine à rattraper, en matière de puces par exemple, c'est particulièrement vrai. La Chine n'a pas eu besoin qu'on exporte des produits très raffinés vers la Chine pour rattraper ce qui était son retard technologique en matière de puces. Pratiquement, on voit bien avec DeepSeek et les annonces qui ont été faites, la Chine a rattrapé son retard technologique d'ores et déjà. Et donc, le fait d'empêcher les exportations de tel ou tel produit parce que la Chine pourra ensuite faire du reverse engineering et savoir comment on fabrique telle et telle chose, je crois que c'est un peu sous-estimé aussi la capacité de recherche des Chinois. Mais malgré tout, tout le monde est présent dans cette chaîne de valeur-là. Alors, le problème, c'est que l'Europe est plutôt un peu moins présente que les autres. Et donc, nos zones de dépendance sont quand même assez large, importantes. Oui. Construire un centre de calcul, c'est effectivement la nécessité d'investir des dizaines de voire des centaines de millions d'euros. Et donc, il ne faut pas que l'Europe soit en retard sur tous ces sujets.
Ah bah alors là, Anne Perrot, vous me fournissez une transition toute trouvée, justement, sur ce potentiel retard de l'Union européenne. L'Union européenne dispose quand même d'un programme de financement de la recherche et de l'innovation qui s'appelle Horizon Europe et qui s'élève à 93,5 milliards d'euros pour 2021 à 2027. Et une initiative en particulier s'est tournée vers l'IA, appelée IA Factories, qui, elle, est dotée d'un financement de 1,96 milliard d'euros débloqué par l'Union européenne et les États membres. Son but affiché, hein, elle le dit, c'est de compenser justement les investissements privés en Europe. Anne Perrot, dans quelle mesure, on va dire, le potentiel retard de l'Union européenne en termes d'investissement dans l'IA est lié au fait que les acteurs privés, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, ne suivent pas vraiment?
Oui, mais c'est exactement ce que disait Thierry tout à l'heure. Hein. On a quand même un système de capital risque. Alors, en France, il s'est quand même pas mal développé depuis 10 ans par rapport à ce qu'il était autrefois. Mais enfin, la France n'est pas la bonne échelle pour concevoir le montant de ses investissements. Donc, encore une fois, Mario Draghi mettait en avant le déficit d'intégration des marchés de capitaux et notamment de capital risque en Europe. Je crois que vraiment, c'est une urgence. Je crois que Christine Lagarde a rebondi aussi sur ce rapport en préconisant la création d'un marché réellement unifié et sans barrière du capital en Europe.
Mais c'est essentiel.
Sachant que du côté des talents, on n'est pas trop mal doté parce que en réalité, on voit que si on prend Mistral, mais aussi beaucoup d'autres startups devenues licornes du monde français ou européen, il y a beaucoup de ces cerveaux qui sont formés en France. Il y en a beaucoup aussi
qui sont partis aux États-Unis.
Il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis et il faut faire attention à ça aussi. D'ailleurs, dans les facteurs, limitants ou les facteurs inquiétants, il y a la capacité quand même des grandes plateformes, grâce à leur puissance financière, à pouvoir recruter des équipes entières de data scientists et de concepteurs de modèles de langage qui sont embauchés d'un bloc dans les boîtes américaines. Donc ça, effectivement, si on est dépouillé de nos ressources humaines, c'est un réel problème.
Et du reste, Anne Bouvron en avait bien conscience, si vous voulez écouter l'interview en entier, elle mentionnait aussi ce problème de fuite des cerveaux qui pose de réelles difficultés. Thierry, faut que vous souhaitiez réagir.
Je voulais rebondir parce que dans le terme capital risque, il y a le mot risque et c'est très important. Ça rejoint le problème d'incertitude qui était mentionné précédemment. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas très bien ce qui va advenir. Peut-être que c'est une bulle, peut-être qu'effectivement, ces investissements faramineux qui sont faits par les entreprises aux États-Unis ne vont pas porter leurs fruits. Mais c'est justement l'aspect risque, c'est-à-dire que ce que font les capital risqueurs lorsqu'ils financent des projets innovants, c'est prendre le risque, effectivement, l'innovation ne se réalise pas. Donc on parle beaucoup des réussites, mais on ne parle jamais en fait des projets qui n'ont pas abouti. Il y en a énormément, il y a beaucoup de déchets. Et donc pour porter le risque, en fait, il est très important d'avoir une surface financière très large, ce que permettent des zones géographiques très larges, par exemple les États-Unis, c'est le cas. Donc c'est là que, effectivement, au niveau européen, il est fondamental que les capitaux soient mobilisés à l'échelle de l'Union européenne, pas à l'échelle nationale.
Benjamin Pageot, vous souhaitiez également réagir sur cette question. J'ai une question pour vous aussi, Anne Perrot, sur cette distinction entre surface géographique mais aussi surface institutionnelle potentiellement. Allez-y.
Je souscris évidemment à tout ce qui a été dit. J'ajouterais simplement qu'il ne faut pas se laisser, entre guillemets, enfumer par l'annonce du plan Stargate. Il y a un enjeu de communication immédiat pour Trump à ce moment-là.
Parce qu'il y avait un contexte qui était très important,
effectivement. Et donc, on se replace toujours dans cette situation de compétition avec la Chine. Et puis, sur les 500 milliards, jusqu'à preuve du contraire, 2029, c'est très loin. On n'est même pas sûr qu'ils aient 50 milliards sous la main pour l'instant. Donc voilà, il faut aussi mesurer un petit peu ces effets d'annonce. Et puis surtout, ça illustre aussi la concurrence très féroce que se livrent ces acteurs américains. Parce que derrière l'annonce du plan Stargate et de ce partenariat entre OpenAI et SoftBank, ce qui se joue, c'est aussi une forme de tentative de prendre son indépendance par rapport à Microsoft, qui était aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'un des principaux financeurs d'OpenAI. Donc voilà, il y a un jeu qui est en cours aux États-Unis. Il ne faut pas toujours tomber dans l'écueil de se dire « Oh là là, ils viennent de déployer 500 milliards, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait et comment on réagit ?» Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, l'Europe est la seule échelle crédible sur ce terrain-là.
Microsoft, qui en avril 2024 disait avoir investi 13 milliards de dollars justement dans OpenAI, ce qui est une somme assez considérable.
Avec des enjeux de rentabilité très importants aujourd'hui.
Ce qu'ils ont dit au moment de l'apparition de ces résultats financiers, c'est que les enjeux de rentabilité viendraient dans un second temps. D'abord, on risquait et ensuite, on verrait si ça pouvait potentiellement être rentable. Anne Perrot.
Oui, je voulais réagir en disant qu'aux États-Unis, malgré tout, indépendamment des annonces de Trump, il y a des institutions qui sont quand même très très favorables à la recherche et à l'innovation. Il y a des marchés de capitaux, il y a un amour du risque. Je repense par exemple à la manière dont ont été finalement développés les vaccins contre le Covid à Boston. Ça, c'est un peu l'œuvre. Donc il y a deux grandes agences aux États-Unis qui sont vraiment des modèles en fait de créer des conditions favorables à l'innovation, c'est la DARPA et la BARDA. Dans le domaine pharmaceutique, la BARDA a investi dans 100 lignes de recherche différentes sur les vaccins. Et puis, il y en a une qui a marché, ça a été les ARN messagers. Et du coup, les États-Unis étaient en bonne position pour valoriser cet investissement, mais qui était une ligne de recherche parmi N. Et puis, par ailleurs, ces deux agences ont aussi comme propriété de rapprocher énormément le monde de l'industrie, le monde des start-up, puis le monde de l'industrie à grande échelle, et le monde de la recherche. Par exemple, dans la pharma, c'est le cas de Boston. Ça a été le cas de la Silicon Valley, même si tout le monde dit actuellement on va aller au Texas parce que c'est mieux, etc. Malgré tout, il y a un écosystème qui a été extrêmement favorable et qui a été un système de grande proximité entre la recherche académique dans les laboratoires de recherche et le développement des start-up et l'industrie. Et ça, je crois que c'est une voie à suivre pour l'Europe, malgré tout.
Oui, mais justement, Anne Perrot, on pourrait se dire qu'en France et puis en Europe de façon plus générale, on n'est pas non plus en manque d'agences de ce type-là. On est très fort pour ça aussi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'universitaires et de think tanks européens qui réclament depuis des années le lancement d'un projet européen de 100 milliards d'euros comparable à ce qu'avait fait l'Union européenne dans le cadre de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, où on avait été plutôt performant, au moins en termes d'innovation. Finalement, on pourrait se dire qu'institutionnellement aussi, c'est dans notre ADN européen.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, mais le verre est dans le fruit quand vous dites, vous reprenez votre phrase, on a beaucoup d'agences. Ben oui, on a beaucoup d'agences. Mais pour autant, on n'a pas énormément de coordination entre les États membres et on a souvent des initiatives un tout petit peu disparates. Alors on rajoute des couches, on dit « ah bah tiens, là on pourrait monter un projet comme ci, comme ça », mais avec, je dirais, un petit manque de coordination et de vision à 360, quoi.
Benjamin Pageot, peut-être un petit point à ce moment de l'émission, peut-être un peu plus technique. On a parlé des financements nécessaires, des fonds à mobiliser, etc. Très concrètement, parmi tous les éléments qu'on a évoqués, à la fois en termes d'infrastructures, mais aussi de données et puis de talents, comme on le disait, de ressources humaines, qu'est-ce qui coûte cher très concrètement quand on cherche à développer de l'IA ?
Les trois, tout simplement. Voilà, je vous fais une réponse. Non, mais aujourd'hui, il est certain que l'acquisition, notamment des microprocesseurs, est l'un des aspects matériels les plus coûteux. C'est ce qui explique aussi la progression absolument spectaculaire de l'entreprise Nvidia au cours des 5 dernières années. Mais l'ensemble de la chaîne matérielle coûte cher, et la formation des talents, qu'on a tendance à oublier trop souvent, coûte extrêmement cher.
Oui, ce sont des ingénieurs très diplômés.
Exactement, qui sont des fois formés pour partie aux États-Unis, mais souvent aussi ailleurs, avant d'être intégrés à des équipes américaines, y compris sur le sol européen, parce que cette question de la rétention des talents, elle se pose aujourd'hui jusque sur le sol européen. C'est-à-dire, on se félicite souvent de la présence de très grands chercheurs, notamment français, mais aussi européens, sur le sol français ou européen. Et en réalité, beaucoup d'entre eux travaillent quand même dans des laboratoires américains. Donc ça soulève quand même une question sur la capacité des acteurs américains à capter très directement cette manne-là, et alors même que ces chercheurs ont été financés, enfin leur formation a été financée par les États européens.
Alors on le comprend indifféremment, on va dire, sans qu'il y ait potentiellement trop de hiérarchie possible. Développer de l'intelligence artificielle, ça coûte cher. Tout l'enjeu est donc de trouver soit les fonds nécessaires, soit tout simplement de produire moins cher. C'est aussi une solution. Et dans ce domaine, un coup de tonnerre a retenti lorsque le week-end du 25-26 janvier, DeepSeek, dont le nouveau programme conversationnel a été mis sur le marché le 20 janvier précédent, devient l'application la plus téléchargée sur l'Apple Store américain.
Dernière sensation en date dans l'intelligence artificielle chinoise. DeepSeek, recherche profonde pour la traduction littérale, réussit une entrée fracassante. L'appli était prise d'assaut ce week-end par les utilisateurs, devenant même numéro 1 aux États-Unis sur le magasin en ligne de la marque à la pomme. Peu de monde a vu venir DeepSeek jusqu'au mois dernier. Elle mettait alors en avant un modèle présenté comme aussi performant que les géants américains, tout en étant moins gourmand en technologie pour engranger les quantités de données nécessaires à son fonctionnement. Une IA moins chère à développer que ChatGPT notamment. Séisme en bourse lundi, 17% de recul à la clôture pour Nvidia, géant mondial des composants et des logiciels pour intelligence artificielle.
C'est comme une bombe nucléaire pour la tech mondiale aux US et en Europe. DeepSeek montre que la valorisation des sociétés d'IA et des fabricants de puces est beaucoup trop élevée, parce qu'il peut fabriquer un produit supérieur à ChatGPT à 1/20 de son coût.
De Wall Street à Hong Kong, en passant par Francfort, DeepSeek est sur toutes les lèvres.
Si tout ce qui est dit sur DeepSeek par les Chinois est vrai, si c'est open source, ça pourrait être copié aux États-Unis comme en Europe. Ce serait très, très disruptif et ça remettrait en question le business model d'NVIDIA.
Un avertissement pour les industriels américains, réagissait Trump à la veille de son investiture. Mais ce que l'intelligence artificielle chinoise ne fait pas, c'est répondre aux questions non validées par le pouvoir chinois. Dissident, par exemple, est au-delà de ses capacités. Une IA à compléter avec d'autres.
Si DeepSeek a autant fait parler d'elle, c'est parce que là où OpenAI aurait dépensé 3 milliards de dollars pour entraîner ses différents modèles en 2024, DeepSeek, elle affirme avoir développé le sien pour seulement 6 millions de dollars. Toute la question est de comprendre comment cela a pu être rendu possible. Or, Thierry Foucault, la start-up DeepSeek est détenue, il faut le savoir, par iFlyer, une société de gestion de fortune. Très concrètement, on parle là d'entités beaucoup moins connues que des géants comme Alibaba, Tencent, Baidu et autres. Ça prouve quoi finalement, Thierry Foucault, que tout n'est pas une question de moyens financiers ?
C'est intéressant. Alors déjà, il est intéressant qu'effectivement DeepSeek soit financé par un fonds spéculatif. C'est-à-dire que le propriétaire de DeepSeek est à l'origine ce qu'on appelle un gérant de fonds spéculatifs. En anglais, c'est les hedge funds. Et donc, ces fonds peuvent être très profitables. Donc, il a utilisé une partie des profits générés par le fonds pour investir dans l'intelligence artificielle. Et c'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, ces fonds utilisent les techniques de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la finance est très consommatrice d'intelligence artificielle, parce que les modèles d'intelligence artificielle, entre autres, permettent d'avoir de bonnes prédictions sur le futur. C'est une espèce de boule de cristal. Et plus vous avez des modèles complexes, plus vos prédictions sont bonnes.
Mais là, du coup, on a un peu l'impression, Thierry Foucault, que si l'IA arrive à bien être financée, c'est aussi parce qu'elle sert en premier lieu à la finance.
C'est toujours la même logique. C'est-à-dire que c'est la même logique que celle que je décrivais précédemment. C'est-à-dire que les acteurs du numérique sont intéressés par le financement des entreprises développant des modèles, parce que précisément, elles espèrent pouvoir en retirer pour d'autres activités des retombées. fait la même chose ici, d'une certaine façon. Alors, DeepSeek, effectivement, le coût des développements, enfin, on ne sait pas très bien non plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans cette histoire, mais...
Oui, de la même façon que Benjamin Page nous alertait sur les chiffres
très, très faible. Alors, il y a deux éléments. C'est d'abord, DeepSeek a effectivement peut-être un coût de développement plus faible, mais c'est beaucoup passé sur OpenAI, puisqu'ils ont utilisé ce process qu'on appelle distillation pour entraîner son propre modèle. Donc, il y a un problème peut-être de droit de propriété sur le... Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est-à-dire que les marchés, effectivement, ont réagi très fort. Le prix de l'action Nvidia a chuté très fortement lors de l'annonce de ce nouveau modèle par DeepSeek. Mais il y a peut-être eu une erreur de l'endroit dans la chaîne de valeur qui est réellement concurrencé. C'est-à-dire que la partie qui est réellement concurrencée, c'est la partie qui développe les modèles. Donc, c'est par exemple OpenAI. OpenAI n'est pas coté en bourse. Donc, on ne sait pas quel a été l'effet sur la valeur d'OpenAI, de DeepSeek. La demande de puces électroniques, c'est très ambigu. C'est-à-dire le fait que les modèles soient moins chers à développer, ça peut augmenter la demande. Ça peut être très bon pour Nvidia. D'ailleurs, le cours de l'action Nvidia a rebondi dans les jours qui ont suivi. Donc, c'est la correction boursière par exemple pour les producteurs de puces, c'est pas du tout l'interprétation est pas simple.
Oui, d'autant que je précise pour les auditeurs et les auditrices un petit point technique, c'est que finalement DeepSeek, alors certes est chinois en tant que tel, et certes n'a pas pu profiter, on va dire, des puces les plus performantes de Nvidia, mais ça restait quand même, alors certes un sous-modèle qui passait, on va dire, sous les radars des sanctions, mais ça restait quand même un modèle développé par Nvidia. Donc effectivement, il y a peut-être eu une forme de mésinterprétation à ce moment-là. Anne Perrault, vous souhaitiez réagir sur cette arrivée fracassante de DeepSeek?
Oui, peut-être juste un mot pour dire que il faut attendre d'en savoir plus quand même sur cette fameuse baisse de coût de DeepSeek, parce qu'il y a quand même un mécanisme qui est à l'œuvre dans toutes les industries chinoises, c'est qu'il y a des aides d'État absolument monstrueuses. Et donc, beaucoup d'entreprises se sont développées en utilisant quasiment gratuitement des ressources qui étaient mises à disposition par l'État, parce que l'État avait choisi de développer ce secteur. Ça s'est vu dans des tas de secteurs différents. Et donc, c'est ce qui a permis, par exemple, à beaucoup d'industries chinoises d'exporter des produits à très bas prix. Alors certes, la main-d'œuvre est moins payée qu'aux États-Unis ou en Europe, mais malgré tout, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'utilisation du foncier, l'industrie automobile, par exemple, les voitures chinoises sont produites à bas prix. Et aussi parce que le gouvernement chinois a décidé de mettre de l'argent public dans la construction des usines, l'achat des matières premières, etc. etc. Donc, il faut tout prendre en compte d'une certaine manière. Si on veut calculer les ressources à partir desquelles DeepSeek a proposé son offre de modèle d'intelligence artificielle, il faudrait voir exactement quelles sont les ressources qui sont concernées et qui ont été impliquées dans l'élaboration de ce produit.
On en revient peut-être aussi à cette idée de modèle, que finalement les États-Unis ont les grandes plateformes, ont les GAFAM pour dynamiser l'ensemble. La Chine a des investissements de l'État massifs. Benjamin Pageau, sur cette distribution, on va dire aussi financière, et puis sur ce qui a permis l'émergence de DeepSeek.
Oui, non, mais c'est très intéressant. Après, je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir si ça a coûté 6 millions ou beaucoup plus. On ne le saura probablement pas.
Ouais, et puis il y a énorme effet d'annonce et de messages.
Voilà, effectivement. Et puis il y a la question ensuite de la commercialisation ultérieure ou pas de ce qu'arrivera à faire DeepSeek par la suite. Donc, ils peuvent avoir investi à perte et donc, on n'arrivera pas à solder cette question. Moi, pour moi, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'ils ont été en capacité de faire sur des puces de rang inférieur, qui sont effectivement des puces Nvidia. Donc là je souscris totalement aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vois pas du tout, la réaction des marchés a été complètement incompréhensible à ce niveau-là.
Oui, tout le monde a dit que c'était un pied de nez fait aux États-Unis, alors qu'en fait pas tant.
Non, pas tant. Et la réalité, c'est qu'effectivement, Nvidia va continuer à vendre des puces et en vendra peut-être encore plus qu'avant, parce que.
Cela dit, tout de même, Benjamin Pageau, Liang Wenfeng, le patron de iFlyer et donc propriétaire de DeepSeek, l'avait dit en juillet 2024. Pour nous, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'interdiction de l'accès aux puces avancées. Est-ce que là encore, il faut y voir un effet d'annonce ou ça correspond tout de même à une réalité?
Non, ça correspond à une réalité. En fait, ce qui est paradoxal avec DeepSeek, c'est qu'on peut se dire que s'ils avaient disposé des puces les plus avancées du marché, ils auraient probablement pas développé un tel modèle. Ils seraient allés vers quelque chose de comparable à ce qui se faisait jusqu'à présent, dans une espèce de course au gigantisme. Et ils seraient pas... Parce que ce que je disais, justement, je reviens un instant en arrière, la partie la plus intéressante de DeepSeek, c'est cette optimisation. C'est-à-dire, c'est le fait qu'à l'arrivée, il consomme moins et qu'il arrive à produire des résultats de recherche aussi intéressants qu'un modèle d'OpenAI qui, pour le coup, consomme bien davantage d'énergie et requiert davantage de puissance. C'est ça, la vraie innovation. Et pour le coup, c'est pas du tout, parce qu'on a pu entendre tout un tas de déclarations à droite à gauche, c'est pas du tout un moment Spoutnik. DeepSeek, c'est une optimisation d'un certain type de modèle. Et ça, en fait, ça bouscule le paysage américain, tout simplement, parce qu'ils sont enferrés dans un modèle économique qui, jusqu'ici, était celui du gigantisme. La course à la puissance, la course au développement des IA les plus consommatrices, parce que c'était la seule perspective de croissance qui leur était proposée. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'ils n'ont pas du tout cherché à être plus efficients, ou en tout cas plus économes. Oui. Ils n'avaient pas d'intérêt économique à le faire. Et donc, ça pose quand même la question de la responsabilité d'un marché américain qui, en étant absolument dérégulé, ne choisit pas toujours la voie, justement, celle de l'intérêt général que je mentionnais en premier lieu. Ce sont des acteurs qui poursuivent la croissance pour la croissance en grande majorité.
Des acteurs qui poursuivent la croissance pour la croissance, mais qui sont aussi peut-être face à une forme de vulnérabilité, et notamment dans cette, on le mentionnait, et notamment à l'égard des régulations, en tout cas des frontières douanières qui sont de plus en plus sur le tapis. Et de fait, l'horizon n'est pas prêt de s'éclaircir. Benjamin Pajot, le 13 janvier dernier, Gina Raimondo, la secrétaire américaine au commerce, a annoncé de nouvelles règles en matière d'exportation de puces électroniques et de logiciels destinés à l'intelligence artificielle et qui vont être assez sévères puisqu'elle vise, elle fait une nette distinction entre les amis et les ennemis, mais elle vise aussi l'espèce de zone grise entre les deux qui peut approvisionner potentiellement les ennemis. On comprend, le but c'est d'affaiblir la concurrence essentiellement chinoise, mais en fait ça peut être aussi un vrai risque pour les entreprises américaines, notamment Nvidia.
Bien sûr, et Nvidia aujourd'hui milite précisément pour abaisser ces barrières-là et continuer à vendre un maximum de puces à la Chine notamment. Mais et donc reste à voir si effectivement la sortie de DeepSeek leur permettra d'ajouter un poids à leur argumentaire ou non. Il y a plein d'acteurs aux États-Unis qui considèrent que ces barrières-là n'ont pas existé. Mais il y a beaucoup d'acteurs concurrents qui sont autour de Donald Trump aujourd'hui et on ne sait pas qui va l'emporter à la fin dans la pièce. Et c'est précisément ce qui rend tout ce jeu-là assez imprévisible et on n'en a pas une lecture très claire à l'instant T, d'autant plus que jusqu'ici, l'intelligence artificielle n'était pas un sujet très prisé du côté de Trump. Il faut quand même remettre les choses à leur place.
Donc, on le comprend, Benjamin Pajot, le contexte, on va dire, fait que Nvidia se retrouve au moins face à une forme d'incertitude, si ce n'est de vulnérabilité. Encore une fois, l'arrivée de DeepSeek a provoqué, on a commencé à le dire, une forme de panique boursière aussi sur les marchés américains. Le 27 janvier dernier, Jensen Huang, le patron de Nvidia, tentait justement de rassurer.
Je crois en Nvidia depuis plus de 30 ans et j'y travaille encore tous les jours. Il n'y a pas de raison pour moi de ne plus y croire et je crois fondamentalement que le travail que nous faisons pour révolutionner l'informatique est réel. D'autant plus réel aujourd'hui qu'hier. Et donc nous nous y tiendrons. Il y a bien sûr des moments difficiles. Vous savez, quand vous investissez dans quelque chose auquel personne ne croit et qui coûte beaucoup d'argent, peut-être que les investisseurs aimeraient juste avoir du profit immédiat et augmenter le prix de leurs actions. Mais si vous croyez en votre destinée, alors il faut investir en vous-même. Et nous y croyons si fort que nous avons investi des dizaines de milliards de dollars pour que cela arrive. C'était long, 10 ans, mais il y a eu de bons moments.
Thierry Foucault, si Jensen Huang tente ici d'apaiser et de rassurer, c'est que l'arrivée du nouveau programme de DeepSeek a entraîné une chute assez monstrueuse de l'indice Nasdaq, alors de 3,45%, mais surtout de Nvidia qui a dévissé de près de 17% avec plus de 500 milliards de dollars de capitalisation envolée. On peut se demander ce qui s'est passé, on l'a compris, il s'agit potentiellement d'une mésinterprétation, ou en tout cas on n'a pas forcément bien situé les enjeux là où ils se trouvaient. Ce qu'on peut tout de même dire quand même, Thierry Foucault, c'est que Nvidia avait gagné 2000% en 5 ans auparavant. Est-ce que le problème ne se situe pas plutôt là ?
Alors, c'est la question de savoir si c'est une bulle financière ou pas. Alors, Nvidia, c'est quand même une entreprise qui est en situation de quasi-monopole. Elle est très dominante, elle a 90% de part de marché. Donc déjà, du point de vue des investisseurs, c'est une bonne entreprise. Avoir un pouvoir de monopole, c'est pas bon pour les consommateurs, mais c'est bon pour les actionnaires de cette entreprise. Ensuite, à nouveau, est-ce que la correction du marché pour Nvidia est la bonne correction ? C'est pas clair, parce que Nvidia, c'est en quelque sorte Si je prends une analogie avec la filière pétrolière, c'est le producteur de pétrole. C'est pas le raffineur, par exemple. Le raffineur, c'est plutôt OpenAI, c'est-à-dire c'est l'utilisateur des puces pour créer des modèles, par exemple. En l'occurrence, le producteur de pétrole, ici, il n'est pas vraiment menacé. Si les modèles deviennent moins chers à développer, ce que prouve DeepSeek d'une certaine façon, ou ce que semble prouver DeepSeek, la demande pour les modèles va probablement augmenter. C'est-à-dire qu'on va en faire des biens beaucoup plus standardisés avec une plus forte demande. Donc, d'une certaine façon, pour Nvidia ou les producteurs de puces, c'est une bonne nouvelle. Donc là, il y a peut-être une erreur de calcul du marché. Ceci dit, il est possible aussi que, de manière générale, pour revenir au point qui était fait sur l'incertitude précédemment, peut-être que les investisseurs se sont dit, bah, il y a effectivement une surévaluation des résultats possibles dans toute l'industrie. Hein. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, c'est très dur de déterminer si les cours sont survalorisés ou pas en finance. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord une notion de qu'est-ce que la valorisation normale. Hein. Et la valorisation normale, c'est un énorme débat.
Hein. Benjamin Pageau, vous souhaitez réagir?
Oui, non, simplement pour ajouter que ce qui est paradoxal, c'est DeepSeek, là, vient d'apparaître sur la carte mondiale, mais en réalité, bon, c'est une entreprise qui avait déjà développé des modèles auparavant et qui...
Oui, c'est vraiment la dernière version qui a...
Exactement, c'est la dernière version, mais leur premier modèle faisait déjà montre d'une forme d'aptitude. En fait, ce qui est pour moi patent, c'est plutôt le fait que d'un seul coup, la tech américaine fait semblant de s'alarmer d'une concurrence chinoise. Vous avez par ailleurs des chercheurs à Stanford ou à Berkeley qui ont réussi à développer des modèles par les mêmes méthodes de distillation qui étaient évoquées tout à l'heure et qui aujourd'hui sont capables d'entraîner des modèles de raisonnement, qui sont donc ces modèles avancés comme DeepSeek R1, pour des coûts extrêmement modiques. On parle de quelques centaines de dollars. Donc, en réalité, enfin, l'innovation, elle est là, elle est en train de se répandre, et elle existe aussi côté américain. Moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment cette espèce de battage médiatique et d'insistance de la part de certains acteurs à faire croire à un moment Sputnik, à faire croire à un moment de mise en péril de l'économie américaine. Et c'est plutôt là-dessus, à mon sens, qu'on devrait en réalité s'interroger, parce qu'il y a des intérêts très directs derrière.
Bon, c'est vrai que si on se base uniquement sur le nombre de téléchargements sur l'Apple Store en un week-end, ça peut sembler mince par rapport au battage effectivement qu'il y a eu derrière. Ray Diallo, le fondateur et ancien président de Bridgewater, soit le plus grand hedge fund du monde, estimait que l'exubérance des cours vis-à-vis de l'IA lui rappelait la bulle Internet. Anne Perrault, selon vous, il y a effectivement un parallèle à faire.
Je voulais justement parler de ça. Il me semble que Thierry a dit tout à l'heure quelque chose qu'on a un peu passé sous silence depuis le début. On a beaucoup parlé des offreurs, de la structuration de l'offre, qui sont les acteurs, etc. Et c'est évidemment fondamental. Et on n'a pas tellement parlé de la demande.
Si ce n'est dans la finance.
C'est-à-dire qui va utiliser l'IA. Et finalement, la question de savoir si c'est une bulle ou pas une bulle va essentiellement dépendre de ça. C'est-à-dire qui s'empare de ces technologies, pour faire quoi. Bon, alors, il y a des tas de... d'estimations économiques qui sont plus ou moins fiables, enfin, qui disent que si l'économie française, par exemple, s'emparait de l'intelligence artificielle à peu près à tous les niveaux où c'est possible, il y aurait un gain de productivité, vous savez que notre productivité est en berne, il y aurait un gain de productivité d'environ 0,70 points de pourcentage. Alors, ça peut paraître faible, en réalité, c'est beaucoup. Et si c'était effectivement le cas, alors, on aurait vraiment intérêt à mettre les bouchées doubles et à accélérer un peu. Mais s'emparer de l'IA, ça veut quand même dire qu'il y a des cas d'usage qui doivent être développés pour les besoins, finalement, des intellectuels que nous sommes, quand on réfléchit à écrire un nouvel article. Après tout, l'IA peut nous économiser énormément de temps à nous trouver une bibliographie pertinente, peut-être à la synthétiser, etc. Quand on est une grande entreprise, on en a évidemment un usage différent. Quand on est une PME ou une micro-entreprise, on en a encore un usage différent. Et donc, il faut, et puis suivant le secteur d'activité, etc. Et donc, tout va dépendre, en fait, de est-ce que, oui ou non, l'IA est capable de développer rapidement des cas d'usage à bas coût dont les entreprises et les particuliers vont pouvoir s'emparer. Et de ça va énormément dépendre le fait de savoir si Nvidia fait l'objet d'une surévaluation et d'une bulle spéculative ou si réellement, ils fabriquent un intrant absolument essentiel à l'activité économique économique du XXIe siècle.
Et finalement, Thierry Foucault, on a là toute la question du lien avec l'économie réelle.
Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense qu'il y a une grosse différence avec la bulle Internet de 2000. C'est-à-dire que la bulle Internet de 2000, les sociétés qui étaient financées lors de la bulle Internet ne produisaient pas de profit. Ce qui n'est pas le cas là, des sociétés dont on parle. C'est-à-dire que Google, Amazon, etc. ont des profits très conséquents. Alors, OpenAI également, par contre, on ne sait pas quelle est l'étendue de ses profits. Donc, il y a une différence pour NVIDIA également à des profits importants. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de bulle évidente. La question, c'est est-ce que les prix en bourse de ces entreprises sont trop hauts par rapport aux profits que ces entreprises réalisent ? Et là, comme toujours, les investisseurs font un pari sur le futur. Donc, on peut toujours justifier les cours actuels par des anticipations de croissance élevées. Donc là, on revient toujours à la même question, c'est est-ce que le marché surestime les opportunités de croissance pour ces entreprises de la tech en général ? Ou est-ce qu'en fait, et effectivement, on est à la veille peut-être d'une révolution industrielle très importante, et donc les anticipations du marché sont parfaitement justifiées. Et il faut bien distinguer, je pense, les producteurs de modèles comme OpenAI, Anthropic, etc., d'autres acteurs dans la chaîne, notamment Google, Amazon, Nvidia, etc., qui, eux, sont acteurs depuis longtemps, et ont des valorisations qui sont pas complètement absurdes, étant donné les profits réalisés.
Et qui, eux, investissent en interne, on le disait, c'est eux qui arbitrent finalement à l'intérieur.
Peut-être que dans le calcul des investisseurs, il y a une partie de la chaîne où on s'est rendu compte que les barrières à l'entrée n'étaient pas si élevées, qui est le développement de ces modèles. Et effectivement, là, la concurrence joue son rôle, c'est-à-dire que des entrants qui ont perçu la possibilité de développer ces modèles à des coûts beaucoup plus faibles sont en train, effectivement, de concurrencer OpenAI et des entreprises équivalentes.
Benjamin Pageau, finalement, la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il n'y aurait pas un trop grand décalage entre les coûts, très important on l'a dit, et les revenus potentiels. C'est donc vous qui écopez de cette fameuse question. Est-ce qu'on sait à quoi sert l'IA aujourd'hui ? Est-ce qu'on en connaît des applications très concrètes, et notamment dans le secteur industriel, mais pas que, pour le tissu économique de façon générale ?
Non, on ne connaît pas toute l'étendue, parce que la technologie est en cours de développement et que chacun essaye effectivement de partir dans une direction qui lui semble plus ou moins légitime. La vraie question qu'on doit se poser, c'est plutôt que voulons-nous faire, nous, collectivement, de ces technologies ? Et donc, repartir des usages que nous souhaitons voir se développer. Moi, je pense qu'il faut totalement inverser le paradigme et pas se laisser dicter l'évolution du marché par des acteurs qui, comme je le disais tout à l'heure, ont un intérêt à d'abord servir des actionnaires. Et c'est aussi le point que cherche à mettre en avant le sommet autour de l'intelligence artificielle d'intérêt général, c'est-à-dire il faut partir des cas d'usage utiles dans la santé, dans la lutte contre le changement climatique, dans tout un tas de secteurs qui peuvent être bénéfiques pour la société, pour ensuite essayer de créer les incitations à développer des modèles efficaces pour œuvrer dans ces directions. Et quand on voit ce qu'est capable de faire Google, enfin DeepMind, qui est une filiale de Google, avec AlphaFold, sur qui est un logiciel qui leur a permis, grâce à l'intelligence artificielle, de développer des structures de protéines extrêmement avancées comparé à ce qui se faisait avant. Et donc d'accélérer des découvertes dans le domaine de la recherche médicale de manière complètement substantielle. Voilà, ça fait partie pour moi, des directions à privilégier. Reste effectivement que le marché n'a pas toujours cette interprétation, pour le coup, plus politique, évidemment, de la technologie.
On voyait une grande distinction entre ce qui pourrait être rentable d'un point de vue financier et puis rentable pour le bien commun, en fait, on peut le dire comme ça. Il y a un autre chercheur qui s'est posé la question du parallèle qu'on faisait à l'instant entre bulle Internet et bulle de l'IA. C'est Cory Doctorow qui, dans un entretien au Monde le 31 août 2024, faisait une très grande distinction que je trouve assez intéressante, Thierry Foucault, qui est de dire, oui, il y a eu bulle avec Internet, mais c'était une bulle productive, dans le sens où elle a laissé des traces, notamment en termes d'infrastructures. En fait, aujourd'hui, de fait, tout le monde a Internet, tout le monde a besoin des lignes qui nous relient à Internet. Et il dit qu'avec l'IA, ce ne sera pas le cas. Est-ce que c'est aussi une façon de voir la chose ? Ou est-ce que ces infrastructures-là vont, au final, peut-être potentiellement être productives, mais dans un temps beaucoup plus long ?
Là, je pense qu'elles le seront. C'est-à-dire qu'elles le sont déjà, d'une certaine façon. On bénéficie tous énormément, par exemple, des produits mis à disposition par Google, etc. Je pense que beaucoup de gens ont commencé à utiliser ChatGPT. Donc oui, il y a une part de productivité. Par contre, il y a une question de savoir quels sont les outils d'intelligence artificielle qui sont au service du bien commun et quels sont ceux qui ne sont pas. Si je prends le cas de la finance, qui est une industrie d'application où il y a des cas d'usage, effectivement, c'est une question intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des applications dont on peut penser qu'elles servent au bien commun, Une, par exemple, c'est l'utilisation par les capital risqueurs de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle pour essayer de discerner parmi les jeunes pousses celles qui sont les plus prometteuses et celles qui le sont moins. Donc là, c'est plutôt bénéfique, c'est-à-dire que ça permet de diriger les investissements vers les entreprises qui ont le plus de potentiel. Donc ça, c'est une utilisation qui, je dirais, est utile. Ça permet d'utiliser au mieux un capital limité. Il y a des utilisations qui sont plus discutables, par exemple par les fonds spéculatifs, qui consistent sur la base de prédictions plus affûtées que le reste des autres investisseurs à engranger des profits, mais probablement au détriment d'investisseurs moins informés. Donc ça, est-ce que c'est au service du bien commun? C'est beaucoup plus discutable.
Mais en tout cas, cette question du bien commun, elle est intéressante parce qu'elle remet aussi en plein milieu la question du rôle des États et du rôle potentiellement de l'Union européenne, au moins dans la vision qu'on a de cette intelligence artificielle. Mais on en parlera dans une autre émission car celle-ci se termine. Merci infiniment à tous les trois, Thierry Foucault, Anne Perrault et Benjamin Pageau, d'avoir participé à cette émission.